Ce n'est un secret pour personne, la gourmandise est sacrée pour moi. Alors quand Koro m'a proposé de devenir partenaire de ce podcast, j'étais plus que ravie. Si vous ne connaissez pas encore Koro, ce sont les pionniers de l'alimentation saine et durable, et vous pouvez trouver sur leur site aussi bien des super aliments, des snacks ou encore les meilleures purées d'oléagineux que j'ai la chance de goûter, mention spéciale pour la purée de cacahuètes crunchy. Et ce qui est particulièrement cool dans la démarche de Koro, c'est qu'au-delà de proposer une très large gamme de produits naturels, dont la majorité sont vegan et bio, leurs engagements se traduisent aussi dans la façon dont ils ont imaginé la marque. Ils proposent d'acheter en gros, dans des grands emballages pratiques et minimalistes, ce qui permet de vous proposer les prix les plus justes possibles. Autant vous dire que j'ai fait la razzia au bureau, on est venu remplir le bar à céréales avec les crispies au chocolat et le granola crunchy. Et ce qui est génial, c'est que quel que soit votre régime alimentaire, vous pourrez trouver votre bonheur. Et pour vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout, on vous offre avec Koro moins 5% de remise sur votre prochaine commande Koro avec le code INPOWER, INPOWER, pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.koro.fr et surtout, régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur INPOWER, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui me tient à cœur, qui est, vous le savez, celui d'une consommation plus responsable. À l'approche des fêtes notamment, qui est une période de forte consommation, et plus particulièrement de poissons, je souhaitais vous partager quelques pistes pour consommer mieux et soutenir une pêche durable, si vous faites partie des 75% de Français prêts à changer leurs habitudes d'achat pour une alternative plus durable. L'enjeu repose sur trois principes. Un stock de poissons durable, en s'assurant que l'effort de pêche se situe à un niveau qui permet d'assurer la pérennité et le renouvellement des espèces de poissons. Un impact environnemental minimisé, grâce à une connaissance documentée sur les zones et les espaces protégés. Et enfin, une gestion efficace des pêches, par le biais de contrôles et sanctions adoptées en cas de non-respect des principes. Les pêcheries respectant ces critères peuvent alors obtenir le label MSC, une organisation mondiale à but non lucratif, créée pour lutter contre la surpêche, qui garantit une pêche durable et récompense les pêcheurs soucieux de l'environnement marin. Alors vous pensez peut-être à moi lors de vos prochaines courses au supermarché et à repérer le petit logo bleu MSC sur vos produits de la mer. Aujourd'hui, je reçois Marina Coutelan, responsable mode développement durable au salon Première Vision. Dans cet épisode, on échange avec Marina de sujets différents qui m'ont tous beaucoup intéressé. On parle aussi bien de culture et tradition à travers le monde que de la relation entre le corps et l'esprit et la nécessité d'en prendre soin, ou encore de l'importance de saisir les opportunités qui se présentent au cours de notre carrière et de faire les choix qui nous ressemblent le plus. On aborde aussi le fait de savoir aller au-delà des préjugés et idées reçues d'un métier ou d'une voie professionnelle, l'importance de savoir différencier la passion et l'implication du surtravail, et surtout, Marina nous apporte des insights très précieux sur la mode responsable, en nous partageant la réalité de l'industrie de la mode aujourd'hui et en nous donnant les billes pour que chacun et chacune d'entre nous puisse changer cette réalité. Si ce n'est pas la première fois que vous écoutez INPOWER, c'est peut-être que ce podcast vous plaît. Si c'est le cas, c'est en laissant un petit 5 étoiles sur iTunes que vous pouvez me le faire savoir et en vous abonnant directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Un grand merci à vous et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Marina.
Parce qu'à Noël, on tire un peu la langue, quoi.
Ouais, tu aurais peut-être inventé une fête comme ça.
C'est ça.
Fin octobre.
Ouais.
Début novembre, t'en as une, t'as la Toussaint, mais c'est vraiment pas gay, quoi.
Ouais, bon, c'est vraiment la déprime. Autant eux, ils sont arrivés à le faire dans un côté un peu fun avec Halloween, autant nous, la Toussaint, c'est quand même sortir des mouchoirs, quoi.
Non, non, il faudrait.
Et puis, c'est pas, tu vois, c'est pas non plus comme les Mexicains peuvent le célébrer, tu vois, d'un côté joyeux, où on honore la mémoire, etc. Carrément. Les beaux souvenirs, nous, il y a toujours un côté, il est mort d'onde d'être austrant, tu vois.
Ouais,
c'est toujours lourd, quoi. Il y a toujours le côté pathos, un truc un peu français, quoi. Toujours un peu lourd, un peu trop ancré.
Ouais, c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant. Et alors, pour te prévenir, j'ai lancé le podcast parce que je trouve ça toujours sympa au final de lancer sur des sujets. Moi, j'ai vraiment découvert la culture du rapport aux ancêtres, comme tu disais, mexicains, avec le film Coco.
Mais oui,
je n'ai aucune honte à le dire. Le truc est sorti cette année,
l'année
dernière. Je suis allée le voir. Mais bah, c'est là où la force des Disney, tu vois, c'est d'arriver à conquérir tout public. Et en fait, ils ont vraiment réussi à mettre à l'honneur les traditions mexicaines,
ouais,
et
la religion, le sujet de la mémoire.
J'ai trouvé ça vachement beau, quoi. Et vraiment, vraiment, je me suis dit, bah, je sais pas pourquoi nous, on n'a pas ce rapport à la mort, en fait, qui chez nous est vraiment tabou, comme tu dis, très déprimant. Voilà, c'est soit on a des croyances religieuses qui font qu'on croit peut-être à une vie après la mort ou à une réincarnation, résurrection, ce qu'on veut, mais au Mexique, c'est vraiment, genre, ils savent que les ancêtres continuent de vivre à travers les générations futures.
Ouais, je trouve qu'en fait, ils célèbrent Enfin, quelque part, c'est l'âme qui est immortelle et ils sont toujours en connexion avec l'âme des gens et c'est ça qui est beau.
Oui.
Et ce qu'on n'a pas chez nous, une fois que le corps n'est plus là, on a l'impression que, en fait, la personne n'a plus existé alors que c'est pas vrai. Et que c'est beau d'honorer une mémoire dans une façon joyeuse et voilà, et d'être dans l'attachement.
Le positif de,
ouais,
de
c'est ça,
du souvenir.
C'est ça, le positif du souvenir, la force des valeurs que la personne t'a transmises, son énergie. Ce qui est quelque part, enfin, c'est, enfin voilà, tes ancêtres, ils vivent en toi, enfin, c'est un morceau de toi. On parle beaucoup hein, de mémoire transgénérationnelle, de choses comme ça, et c'est très important.
Oui, ça a du sens. Je me demande dans quelle mesure une tradition peut naître, ou à quel point on peut changer une culture, enfin, comment dire, sachant que je ne sais pas de quand date cette culture mexicaine. Sûrement quelques siècles.
Ouais.
Tu vois, est-ce qu'on peut se dire, il n'est pas trop tard pour instaurer une nouvelle tradition ?
Une nouvelle tradition.
Et je trouve ça assez fascinant. Et d'un côté, j'ai l'impression que non. Enfin, je veux dire, ou alors il faudrait créer un mouvement, une nouvelle religion. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu mal interprété.
C'est compliqué le sujet des religions.
C'est un peu. De toute façon, c'est le truc qui se lance. J'ai l'impression que c'est des sectes. Mais c'est intéressant parce que, ouais, en fait, les traditions, tu dis d'un côté, si on n'a jamais de nouvelles qui se créent, ben, on est condamné à un conservatisme qu'il faut parfois peut-être remettre en question
et
qu'il faut venir un peu secouer, quoi.
À des siècles en arrière.
Ouais. Mais bon, d'un côté, je suis attachée à certaines traditions. Enfin, j'aime bien le côté, tu vois, Noël, c'est quand même traditionnel.
Bien sûr.
On le réinvente un peu.
Mais en même temps, il y a un côté festif avec ça.
C'est vrai.
Qui est agréable. Moi, je pense c'est ça, c'est le côté plombé. Enfin, moi, je me rappelle de ma grand-mère. Enfin, à chaque fois, la Toussaint, c'était très lourd. Il fallait aller rendre hommage à nos familles, au cimetière, tout ça. Mais il y avait toujours un côté très, très lourd.
Mmh.
Et je trouve ça dommage, plutôt que de se dire, on se fait un repas et on se rappelle les bons souvenirs.
Ouais.
Ce qui peut être une autre façon d'honorer la mémoire des gens.
Ouais. Je pense que certaines personnes le font peut-être, mais voilà, à titre personnel, et il faut que toute la famille soit dans
cette
ambiance-là.
C'est ça, dans ce
cas-là, du coup, tu nous parles un peu, tu nous parlais du coup un peu de ton enfance. Qu'est-ce que t'en as retiré et quel type d'enfant t'étais ? Parce que je trouve ça toujours intéressant de parler un peu de l'enfance des gens, parce que déjà parfois ils te rappellent des trucs qu'ils se souvenaient pas, et que je trouve qu'au final c'est souvent là où on trouve qui on est, parce qu'en fait c'est nous avant toute influence de la société, toute comparaison, avant l'adolescence,
ouais,
on peut se poser beaucoup de questions.
Moi j'ai toujours été une enfant très curieuse. J'étais pour le plus grand bonheur de mes parents, je pense, une assez bonne élève aussi parce que j'avais un père qui me mettait bien la pression et une maman ultra bisounours de l'autre côté. Mais j'ai toujours été hyper curieuse et là où j'ai eu énormément de chance, c'est que mes parents m'ont laissé toujours faire ce que je souhaitais à partir du moment où je le faisais à fond. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Il n'y avait pas de métier tabou. On m'a jamais demandé de faire, des études d'avocat ou je sais pas quoi. Par contre, si je m'investissais dans un domaine, il fallait que je le fasse à fond. Mm-hmm. Si je faisais de la danse, il fallait que je travaille la danse chez moi. Si je faisais de la musique, c'était la même chose. Enfin voilà, il y avait un côté jusqu'au boutiste qui, en même temps, je pense, m'a donné à la fois une certaine rigueur et un investissement dans ce que je fais, et en même temps une liberté d'explorer différents domaines. Et ça, je pense que j'ai eu énormément de chance là-dessus. Mmh. Parce que je vois autour de moi, il y a beaucoup de gens qui sont lancés dans leurs études parce que tu dois faire ça, parce qu'il faut avoir un métier stable, etc. Voilà, moi, j'ai eu mon bac avec mention, j'aurais pu faire plein de choses. Et au final, c'est moi qui me suis plutôt fermé des portes au début parce que je me suis dit, je suis bonne en anglais, j'aime bien l'histoire de l'art, j'adorais tout ce qui était l'univers de la mode, mais il y avait un côté superficiel. Mmh. Et j'avais peur de cette étiquette-là, donc j'y suis pas allée. Donc j'ai commencé par faire un double dug anglais histoire de l'art. Et puis pour me rendre compte que non, j'avais vraiment trop envie d'aller vers les métiers créatifs. Et voilà, et quand j'y suis allée, quand je me suis dit, ben j'y vais, on m'a pas dit non, ne le fais pas. Moi, j'avais eu des profs qui m'avaient dit ne fais pas, parce que je m'étais posé la question de faire des études d'art appliqué. Moi, j'ai des profs qui m'ont dit texto, les classes d'art appliqué, c'est des classes poubelles. Je trouve ça, mais terrible de dire ça à des étudiants. C'est terrible. Donc je l'ai pas fait en me disant non, je veux pas me fermer de porte. Et puis en fait, après, je me suis rendu compte que non, il fallait aller vers ce qu'on aime. Et voilà. Et en même temps, c'est là où mon éducation m'a aidée, c'est je vais aller vers ce que j'aime, mais en même temps, je vais le faire à fond.
Ouais.
Donc c'est vrai que d'un coup, on est passé de j'étais partie pour me dire je vais être conférencière dans un musée parce que voilà, ça va lier mon amour des langues à mon amour de l'art. Et puis d'un coup, je me suis dit, ben non, moi je suis fascinée par les petites mains, j'étais fascinée par le costume parce que j'ai fait pas mal de danse. Et voilà, moi j'étais fascinée par ces univers-là. Et je me suis dit, ben, je vais faire ça, je vais y aller à fond. Et donc, j'ai fait des études de stylisme. Et puis après, j'ai aussi fait confiance à la vie, à me dire, il n'y a pas de chemin tracé. C'est un peu quelque chose qui guide mon existence, je pense. C'est aussi savoir saisir les opportunités quand il y a des jolies rencontres et qu'il y a quelque chose qui te titille, c'est y aller vraiment.
Ouais.
Et donc voilà, donc je me suis mis à faire du stylisme. Après, j'ai commencé à travailler en bureau de tendance.
Du coup, tu disais que tu faisais de la danse et que c'est quelque chose que tu aimais beaucoup.
Oui.
Et ça, tu l'as jamais considéré par contre comme une carrière potentielle ?
Non, pas du tout. Je crois que c'était ma bulle à côté. Ouais, je l'ai jamais exploré. Il y a eu un moment où je me suis posé la question de l'art-thérapie parce que en fait, je crois que j'ai toujours eu un besoin, ou en tout cas une envie du sens au-delà de mon propre plaisir ou de mon propre épanouissement.
Mm-hmm.
Voilà, j'aime bien cette idée-là que les choses puissent servir au plus grand nombre. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très beau dans l'art-thérapie. Après, c'est quelque chose qui se développe assez peu en France.
C'est marrant que t'en parles parce que ce matin je devais aller à un atelier d'art-thérapie.
C'est vrai.
Pour la première fois de ma vie avec des personnes atteintes de schizophrénisme parce que demain c'est la journée de la santé mentale et en fait au final j'ai eu le retour de la personne qui m'avait contactée pour me faire venir et que j'en parle sur mes réseaux. Ils ont reçu apparemment trop de monde dernièrement et ça les a un peu perturbés. Donc ma session a été annulée, mais j'ai découvert ça. Je ne connaissais pas non plus, donc t'as raison, ça existe. Donc d'un côté c'est bien, mais c'est pas encore très répandu,
très
connu.
C'est pas très développé en France, alors que c'est... Enfin voilà, à travers les différentes pratiques artistiques, on peut avoir un vrai soulagement. C'est d'autres façons d'exprimer son être. Enfin voilà, c'est une autre partie de soi qui s'ouvre. Et je pense que pour différentes pathologies, ça aide énormément. Ça aide aussi beaucoup à décharger des énergies... Et c'est hyper important.
Tu t'en es rendu compte tôt de ça, parce que c'est quand même une réflexion, je trouve, assez poussée. Déjà, se rendre compte de l'impact des émotions sur notre corps, sur notre santé mentale, comment l'extérioriser. Je sais que c'est quelque chose dont j'avais pas du tout conscience quand j'étais enfant. Je pensais que tout était contrôlable, tu vois.
Alors, à la fois, moi, j'ai quand même pourtant fait des pratiques qui sont beaucoup dans le contrôle. Hein. J'ai fait beaucoup de danse classique. Et en même temps... Il y a une forme de lâcher son corps selon les disciplines que tu fais. Tu apprends à lâcher tes énergies.
Ouais.
Quand tu apprends à faire du hip-hop, il faut lâcher les choses. Là où dans l'élastique, t'es dans le contrôle. Je pense qu'en fait, moi, le soulagement que je ressentais par rapport à la pratique, c'est là où j'ai identifié que ça faisait du bien. Après, ça, je pense que moi, c'était la danse, mais pour d'autres, ça peut être le running, ou enfin voilà, plein de pratiques diverses et variées.
Mmh.
Mais oui, je pense que je me suis rendu compte assez tôt que voilà, qu'une pratique physique aidait vraiment à sortir les énergies. Et comme beaucoup de Parisiennes, maintenant, je fais du yoga, et c'est vrai que... je suis avec des profs qui sont beaucoup là-dessus. Sur de toute façon, toute la pratique des asanas, elle t'amène vers la méditation, parce qu'en fait, c'est en faisant travailler le corps que tu vas relâcher certains points et qu'après, tu vas pouvoir arriver avec ton esprit à être plus focus sur certaines réflexions, ou au contraire, bien évidemment, sur du lâcher prise. Et en fait, c'est ça. Et on est souvent dans des moments, et particulièrement en France, où on glorifie... voilà, l'activité cérébrale, et bien évidemment que c'est important, mais en même temps, je pense que tout le message du corps et toute l'énergie qu'on a dans le corps, elle est aussi primordiale.
Ouais, c'est vrai qu'on n'apprend pas à l'écouter, enfin, c'est aussi, j'ai l'impression que je dis ça assez souvent, mais quelque chose qu'on devrait instaurer à l'école, c'est très bien l'EPS, mais on apprend juste du coup à se dépenser, ce qui est déjà pas mal, et comme tu dis, ça relâche les énergies. On n'apprend pas le rôle que le corps peut avoir, la connexion que ça a avec l'esprit.
Ouais, tout à fait.
Enfin, je veux dire, c'est des choses qui t'aident tellement à être heureux, et c'est vrai que je sais pas pourquoi on a cantonné vraiment l'école à du savoir. Je pense que peut-être il fallait faire un choix, mais si on veut former des humains et des citoyens et des personnes qui en fait évoluent en harmonie, je pense qu'il faut en fait former des personnes heureuses avant tout, quoi.
Oui.
Et je suis pas sûre qu'on peut être heureux si on est juste intelligent, tu vois.
Ouais,
je pense
suis
qu'il
d'accord.
Y a toute une phase d'épanouissement corporel et je sais pas, de relâchement qui est hyper importante.
Bah, en fait, je pense que c'est être dans une globalité. on a un esprit et on a un corps, ouais. Au même titre que, enfin voilà, moi dans les problématiques que je peux aborder dans le cadre de mon travail, il y a une industrie et il y a une planète. Ouais. Enfin, il y a un moment, on peut pas travailler en silo et se dire que, voilà, on n'est que sur un canal. Enfin, tout a une incidence.
Ouais.
Et voilà, donc c'est important de prendre les choses dans leur globalité.
Et on a tendance à trop, enfin on a eu tendance à les dissocier.
Oui, je pense. Alors peut-être parce qu'il y a certaines périodes où aussi pour certains types de croissance, il était nécessaire d'être sur le développement que d'un seul silo, mais en même temps, voilà, après ça...
Ça a payé.
Ça rend à la fois... À un certain moment, ça permet une accélération, mais après ça enferme. Et voilà, moi je suis... Ouais. Moi, je ne suis jamais pour les extrêmes, quels qu'ils soient, et sur une espèce de quête,
de l'équilibre.
De quête de l'équilibre, même si en même temps, c'est en se rendant compte qu'on est un peu tout le temps à marcher sur un fil et à chercher à trouver la balance. Et c'est comme ça, en étant constamment, je trouve, en recherche de balance, qu'elle se crée naturellement.
Ouais, c'est vrai. Et de pas. Je pense que c'est aussi en se mettant trop la pression qu'on ne l'atteint pas.
Exactement.
Moi, c'est à partir du moment où j'ai abandonné d'essayer de l'avoir qu'au final, j'ai trouvé un certain équilibre et qui me correspond, parce que je pense qu'il est individuel et qu'il y a des priorités à certains moments et que équilibre ne veut pas dire 50-50. Et ça, j'ai mis longtemps à le réaliser.
Ouais, tout à fait.
Équilibre, ça peut être 70-30. Mais parce que toi, le 70-30, ça marche.
Ouais, c'est ton équilibre.
Et voilà, c'est ça aussi qui rassure et qui fait enlever de la pression. Il y a un autre sujet que je voulais aborder dans ce que tu as dit juste avant. Donc, tu as dit que tu étais très intéressée par les langues et l'histoire de l'art, mais aussi par la mode, et que bah, c'est en faisant l'histoire de l'art et les langues que tu t'es rendu compte que tu voulais vraiment découvrir l'univers de la mode. Est-ce que les deux autres univers t'ont pas manqué après? Parce que on parle parfois, et assez souvent au final, des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire, mais on parle pas forcément des personnes qui ont plusieurs centres d'intérêt et qui voient pas lequel, forcément, dans lequel ils veulent aller, parce que ça veut dire, enfin, choisir, c'est renoncer, quoi.
Oui, tout à fait.
Et on peut avoir un peu un fear of missing out des autres.
Alors, je l'ai pas ressenti. Alors, au début, j'ai eu, quand je me suis inscrite dans mes études de stylisme, je me suis dit, j'ai perdu du temps par rapport aux autres. Mais pourquoi j'ai pas commencé plus tôt alors que voilà, moi j'avais juste 2 ans d'écart avec la plupart des nanas avec qui j'étais en cours, mais je me disais oh là là, moi j'ai perdu 2 ans, espèce de truc de course au temps tout le temps. Et en fait, dès que j'ai commencé ma vie pro, je me suis rendu compte que pas du tout. Déjà parce que quand tu travailles dans l'univers de la mode, tu baignes dans des milieux quand même assez artistiques, que particulièrement quand tu bosses pour des bureaux de tendance, t'es tout le temps en train de rechercher des influences, et donc tout ce que t'as appris en histoire de l'art, c'est jamais perdu.
C'est vrai.
Au contraire, ça t'aide à avoir des clés pour décrypter ces univers-là.
Ouais.
Donc ça, enfin, quelque part, l'histoire de l'art, c'était évident que c'était un super acquis. Et l'anglais, au début, je me suis dit, bon, bah, ok, ouais, je sais bien parler anglais, c'est sympa quand je pars à l'étranger. Maintenant, so what? Sauf que, quand tu te retrouves à évoluer dans ton poste, tu te retrouves à travailler avec des équipes à l'international, et forcément, aujourd'hui, l'anglais, je l'utilise dans mon quotidien, ça me sert dans ma vie pro, et donc c'est un super acquis. Là où il y a eu un moment où je me suis dit, oui, enfin, je parle un peu mieux anglais que les autres, mais bon, au début, je me suis dit, c'est pas un vrai atout, et après, bien évidemment que ça a été un méga atout, et que parfois, ça a peut-être été la petite carte qui m'a permis de sortir un petit peu du lot, Donc non, en fait, je pense que tout ce que t'apprends, ça te sert toujours, et que peut-être qu'il y a des moments où j'en sais rien. Hein, moi, je pense que la vie est jamais totalement tracée, et fort heureusement, peut-être que j'en sais rien. Dans 20 ans, je vais avoir envie de changer, de me dire, bah oui, à un moment, je voulais être conférencière dans les musées, peut-être que je vais faire ça.
Tu fermes pas de porte.
Ouais, je me fais. En fait, ça a vraiment été ce qui s'est passé dans ma vie professionnelle. Je suis arrivée en bureau de tendance. À la base, je voulais faire plutôt du prêt-à-porter. Et puis, en fait, j'étais en stage avec les filles de la lingerie. Ça s'est très bien passé avec elles. J'avais une patte très féminine. Il y a eu un besoin de renfort dans cette équipe. Donc, ils m'ont proposé un poste. Ça s'est fait comme ça. J'ai toujours suivi ce qui me paraissait être adapté à moi. Et après, voilà, je fais toujours l'effort, et après, c'est peut-être une petite faculté que j'ai. Je sais relativement facilement m'adapter aussi parce que voilà, je suis très curieuse et que si je débarque dans un univers, je vais essayer de comprendre quels sont les codes, voilà, quelles sont les attentes des gens, qu'est-ce que je pourrais apporter, comment moi, ma personnalité, mon caractère peut amener quelque chose à cette équipe-là. Et donc voilà, en fait, je me ferme pas de porte, j'essaye juste régulièrement de me dire, ok, est-ce que là, t'es en phase avec tes envies, avec tes convictions? Et voilà, et parfois, ça m'a fait ça m'a fait faire des choix, mais que j'ai jamais regretté, parce qu'une fois de plus, quand j'ai fait des choix qui parfois ont pu surprendre certaines personnes, je me suis toujours dit, non mais en fait, là, je crois à ça, j'y crois à fond, c'est une partie de moi, comme tu le disais, voilà, bah, c'était des parties de moi qui s'exprimaient à un certain moment, et voilà, il y a des moments où j'ai choisi que cette partie de moi, elle allait vraiment s'exprimer, et j'allais vraiment lui donner la parole.
Ouais, je vois.
Et c'est ça qui est clé.
Mais en fait, ce que j'avais en tête quand je te disais pour l'histoire de l'art et les langues, c'est pas trop si t'allais les réutiliser, mais ça te manquait pas. En fait, parce que tu vois, si t'étais passionné d'histoire de l'art et qu'en fait t'es parti vers la mode parce que t'aimais aussi la mode, parfois on se rend compte que ça nous manque et qu'on aurait aimé continuer à travailler dans cet univers. Et je trouve que parfois on peut avoir cette difficulté à se mettre dans un seul secteur parce qu'on a l'impression que ça nous enferme des autres. Mais en fait, comme tu l'as dit, si t'es quelqu'un de curieux et t'arrives à voir dans tous les cas l'art dans toutes ses formes et là où il est, t'as dû le retrouver en fait par la suite.
C'est que je le retrouve ou voilà, ben je vais passer du temps à faire des expos le week-end. Enfin, pour moi, c'est jamais perdu. J'adore la langue anglaise. Je suis toujours, dès que j'arrive à Londres, moi, dès que j'entends un accent anglais, je suis tout émoustillée. Je sais pas, j'adore le son de l'accent anglais.
Il est beau, l'accent anglais.
Mais voilà, j'ai eu l'occasion de travailler avec des équipes à l'international au quotidien. Et donc, voilà, mon amour de cette langue, je la retrouve régulièrement. Donc, non, je me sens pas frustrée de ça. Ouais, j'ai pas l'impression d'avoir perdu des choses, en tout cas.
Ouais, je vois. Et tu disais du coup que tu as eu à faire des choix qui n'ont pas forcément été acceptés par tout le monde. Ça, c'est aussi une vraie question. Et en fait, même je trouve que la tournure de la phrase nous montre qu'on n'exclut jamais les autres de nos choix, quand au final, je pense que c'est ce qui serait le plus sain. Parce que sinon, c'est qu'on fait un choix pour les autres et que ça nous rendra très certainement pas heureux. Tu parlais de quoi quand tu disais ça? Est-ce que c'était par rapport à des personnes qui t'imaginaient faire autre chose? Ou est-ce que c'était par rapport pro-perso? Voilà, c'était quoi en fait les dilemmes que tu as eu à affronter?
Alors, c'était pas des dilemmes énormes, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à bosser, donc j'étais en bureau de tendance, et puis au bout d'un moment, voilà, j'avais un peu envie d'autre chose, aussi par rapport à certaines valeurs où j'étais inscrite dans une industrie qui produisait toujours plus, où je trouvais que parfois le rapport aux vêtements, on l'utilisait, on le jetait, enfin je trouvais qu'il n'y avait pas trop de sens. Moi, j'ai toujours énormément aimé les bijoux, et puis je trouvais que dans le bijou, il y avait un affect plus fort. Il y a quelque chose de l'ordre de la transmission. Je trouve que souvent, quand on est une femme, on a des bijoux qui nous sont très précieux, qu'on voudrait perdre pour rien au monde, qui racontent un héritage, qui ont une histoire, qui ont une valeur. J'aimais énormément ça, et voilà, ça se passait très bien en bureau de tendance. J'étais avec une équipe géniale, enfin voilà, je m'épanouissais, et il y a un moment où je me suis dit non, mais en fait, aujourd'hui, moi, le vêtement fait plus sens. Il y a quelque chose dans le bijou qui est plus fort. Et voilà, et j'ai un peu tout arrêté du jour au lendemain, parce qu'en fait, souvent c'est ça, je me pose des questions pendant un temps, et puis un matin, je me réveille et je me dis, c'est maintenant, j'y vais. D'un coup, c'est d'un coup, le voile se lève, il n'y a plus de doute, j'y vais. Et donc voilà, j'ai repris des études en bijouterie joaillerie. Donc voilà, quand d'un coup, tu reprends des études, alors qu'a priori, tout roulait. En fait, c'est ça. Parfois, il y a des gens qui disent, mais pourquoi? Enfin, d'un coup, c'est ta lubie. Tu veux faire 3 bracelets? Non, je veux pas faire 3 bracelets. Je veux comprendre, voilà, l'histoire d'une pierre. Quelles sont les valeurs? Comment on travaille le métal? Parce que je me rappelle être allée à une expo Van Cleef et avoir regardé, je crois, 3 fois en boucle une vidéo d'un mec qui était en train de sertir une pierre. Et moi, j'étais émerveillée par la main de l'homme, par le travail de cette extrême minutie. Et voilà, j'ai eu envie de faire ça, et je l'ai fait pendant quelques années. Et c'est un super souvenir. Après, c'est que j'ai eu la chance et la malchance de travailler pour le luxe. Et que c'est des super opportunités, parce que c'est des projets extraordinaires. Maintenant, c'est ce qu'on parle, ce que tu évoquais tout à l'heure sur l'équilibre. Il y a un moment où c'est des métiers extraordinaires. Maintenant, il y a des moments où c'est des métiers aussi où tu dois t'y rentrer sur ta vie, parce que tu vas travailler 6 jours sur 7, 8 mois par an, qu'il n'y a pas de place pour le perso, parce que quelque part, on estime que tu as tellement de chance de faire ce métier-là que c'est normal que tu te donnes corps et âme. Et c'est vrai qu'au début, c'est super excitant et que tu le fais. Et il y a un moment où j'ai vraiment été, je pense, à 2 doigts du burn-out, et mon copain de l'époque m'a dit « je sors pas avec toi pour sortir avec une nana qui fait un burn-out ». Et ça a été très juste. Et en fait, je pense que j'ai arrêté ça au bon moment, où je me suis dit « non, là, c'est trop ». C'est trop, ça prend trop de place. Et puis, il y a un moment où la fatigue physique, la pression, parce qu'il y a de la pression dans ces milieux-là aussi, hein, parce que voilà, quand on doit sortir X collections par an, c'est dur. ont fait que je me disais non, mais t'as énormément de chance, tu peux pas laisser tomber. Mais il y a un moment, oui, de l'extérieur ça peut avoir l'air génial, mais quand toi tu te rends compte que enfin, c'est complètement en train de t'avaler et que c'est plus ce qui te rend heureuse, c'est non.
C'est fou, t'as totalement raison, et je pense que le problème vient du fait qu'on attache tant d'importance à une renommée, une réputation. Et en fait, je pense que la question à se poser à chaque fois, c'est est-ce que ce que je fais au quotidien me rend heureuse ? C'est pas est-ce que l'idée du métier ou l'idée que les gens s'en font est stylée et me rend stylée et voilà, ça le fait, ça suffit pas. Enfin, ça peut être un critère, hein, je dis pas le contraire, mais le principal, c'est est-ce que je suis bien dans ma tête, dans ma peau ? Et c'est vrai que je trouve que c'est difficile de se le rappeler, surtout quand on aime ce qu'on fait.
Oui.
Parce que du coup, on est très porté par cette énergie, mais au final... Moi, j'essaie vraiment aussi d'avoir ce rappel quand je me rends compte que je travaille vraiment beaucoup et qu'il faut parfois savoir s'arrêter. Enfin, j'essaie de faire la différence entre, en soi, je peux quand même beaucoup travailler et certainement, enfin, je pense plus que des horaires classiques. Mais si je peux même pas en récolter les bénéfices parce que je m'en veux dès que je prends un jour off, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai vraiment eu ce wake-up call un peu de me dire si tu fais tout ça, mais pourquoi ? Ok, tu peux être drivé par ça, mais il faut pouvoir en profiter. Et en profiter, ça pourrait dire prendre son temps, faire des choses à l'extérieur qu'on aime. Et je pense que tu as totalement raison. Et parfois, on a l'impression que ça arrive qu'aux entrepreneurs, alors que non, il y a une pression qui peut même parfois être supérieure dans les personnes qui sont dans des grandes maisons, parce qu'en plus, il y a la hiérarchie, et parce qu'en plus, il n'y a pas l'envie de décevoir. Et c'est un peu ce que tu disais, où en fait, on vous fait comprendre que votre place, il faut la mériter. Et mériter, ça passe par tout sacrifier, quoi.
Oui, c'est exactement ça. Et puis il y a un moment où tu te dis ben non, ça fait plus sens là. Enfin voilà, la question du sens, elle est quand même toujours, ouais. Toujours clé. Et puis c'est aussi que il y a un moment, t'as plus de temps pour t'oxygéner, donc t'as plus de temps pour aller voir des expos, juste vivre ta vie, t'émerveiller devant un paysage, etc. Et t'arrives plus à te nourrir, donc il y a un moment aussi où toi t'as plus de sève à l'intérieur.
Ouais. Et ça, c'est hyper révélateur.
Donc ça, c'est hyper révélateur. Mmh. Et moi, je me rappelle que à cette époque-là, j'avais une amie qui était partie vivre en Suède et qui me disait, ben, tu vois, dans les pays scandinaves, c'est hyper différent parce que c'est limite le contraire. Si tu restes trop tard au boulot, si tu fais trop d'heures, on te regarde mal parce que quelque part, si tu n'arrives pas à investir ta sphère perso, à te développer toi en tant qu'humain, tu n'auras pas une bonne énergie et plein de choses à amener dans ton cadre de travail. Mmh. Et donc, ils estiment que cet équilibre-là, il est clé. Mmh. Maintenant, voilà, on est aussi en France où on aime bien les gens qui font plus d'heures. Voilà, et dans les métiers du luxe ou de la mode, on estime que c'est normal de donner ta vie à ça. En fait, c'est normal de donner tout ce que tu peux et ce dont tu as envie. Maintenant, c'est toujours une histoire d'équilibre. Mmh. Être... Ne reposer sa vie que sur un pilier, ça n'est pas bon.
Ouais, totalement.
Et moi, je me rendais compte que j'avais plus de temps. J'avais plus de temps pour mon couple, j'avais pas de temps pour mes amis allaient pas bien, et j'étais là à dire, je peux tout voir samedi quand je vais sortir, je vais peut-être finir le boulot à 19h30, on peut dîner ensemble, mais il faut que je me couche tôt, parce qu'en fait, dimanche, il faut quand même que je commence à cogiter à ça. Enfin, après, tu te dis, non, mais c'est pas possible, en fait, je peux pas laisser les gens sur le carreau, parce que...
Carrément. Ouais, carrément. Ouais, ouais.
Et en fait, ça fait partie des questions où je me suis dit, non, mais stop.
Stop. Ok. Et du coup, quelle a été la prochaine étape ? J'ai l'impression qu'on est dans un roman.
Oui, alors l'étape d'après, ça a été de me dire, je vais chercher. Et en fait, c'est ça. Je me suis dit, une fois de plus, je me ferme pas de porte et je verrai un peu ce que l'univers m'amène. Et j'ai passé des entretiens dans plusieurs entreprises, et dont Première Vision. Et c'était une fois de plus, encore... je venais de faire... 4 ans auparavant, j'avais refait une formation de bijoux. J'aurais pu me dire non, je reste absolument dans le bijou, etc. Et je me suis dit, je me ferme pas de porte. Et puis chez Première Vision, on m'a proposé un boulot pour m'occuper des composants accessoires, donc tout ce qui est l'approvisionnement, parce que Première Vision, pour le grand public, pour les gens qui connaissent pas, c'est un salon professionnel où on vient sélectionner ses matières quand on est un créateur pour ses collections. Donc il y a du tissu, du cuir, des composants accessoires. Et donc moi, on m'a demandé de m'occuper de la partie composants accessoires et des tendances qui y sont liées. Puisque sur le salon, on a des espaces pour dire, pour aiguiller les designers et leur dire, les points forts de la saison, c'est ça, telle matière, tel aspect. Et je me suis dit, à la fois, ça relie mon passé en bureau de tendance, ça relie mon amour du produit, parce qu'il faut imaginer ce que va chercher un designer quand il vient au salon. Mmh. Et je me suis dit, allons-y. Et puis, Et puis voilà, ça a été le début d'une jolie aventure. Et puis, c'est trouvé qu'au bout de 2 ans, ça roulait bien. Et puis, il y avait plusieurs sujets dans l'entreprise qui étaient potentiellement à développer. Donc, un jour, on nous a dit, voilà, il y a tel projet que vous pouvez potentiellement saisir. Dites-nous ce qui vous intéresse. Et il y avait notamment, il y a 3 ans, on nous a dit, on veut pousser l'éco-responsabilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait partant? Et puis, moi, ça, enfin voilà, c'est toujours fait partie de mes valeurs. C'est justement ce qui a fait, je pense aussi au début, que j'ai pu retarder mes études de stylisme, c'était ce manque de sens. C'est ça qui avait fait que j'avais voulu aller vers le bijou, parce que j'étais attachée à cette idée d'héritage et de valeur. Et voilà, et donc moi je suis allée voir ma directrice mode et je lui ai dit, moi l'éco-responsabilité, oui. Enfin, pour moi c'est une évidence que de toute façon, il se passe déjà des choses. Il y avait déjà des marques qui avaient un petit succès, mais qui étaient quand même une niche. Et moi je me suis dit, oui, c'est les valeurs qui sont les miennes et c'est ceux que j'ai envie de pousser, parce que j'espère bien que cette industrie, elle va vraiment s'inscrire dans ces valeurs-là pour demain. Mmh. Et puis voilà, donc on a monté une équipe un petit peu plus costaud que celle qui existait à date en 2016. Et puis voilà, on a poussé le projet et puis on a eu la chance, le bonheur que voilà, que l'industrie se réveille. Aussi parce qu'elle n'a pas eu le choix. Et voilà, et donc là, moi je l'ai vu sur ces 3 dernières années, mais le changement qui est énorme. Mm. Et voilà, et ça fait plaisir de voir que ça y est, on est la transition, elle est vraiment enclenchée. Moi, j'estime que depuis quelques mois, on a vraiment atteint un point de bascule et que ce changement, il est irrémédiable dans cette industrie. Et donc voilà, je suis heureuse de voilà d'avoir levé la main il y a 3 ans, ouais, et de dire ah oui, moi ça je veux y aller parce qu'aujourd'hui ça m'anime énormément. Ouais.
J'allais te demander justement, parce que nous, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et donc je savais que tu avais ces valeurs communes aux miennes. Quand est-ce que toi, tu as eu cet éveil? Alors, tu disais que ça avait toujours fait partie de toi, et est-ce que c'était plus au niveau du sens? Mais alors, moi, vraiment, ma question porte sur même la préservation de l'environnement. Est-ce que, en fait, non, tu as toujours eu conscience de ça? Ou est-ce que à un moment, tu t'es documenté, tu t'es renseigné? Enfin, quel a été un peu ton chemin? Parce que j'ai envie de plus en plus, avec ce podcast, d'éveiller les personnes qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir un entourage qui les éveille sur la question.
Alors, c'est une conscience qui a toujours été là. Je me rappelle qu'au début de marques comme Veja, Misericordia, je me disais, c'est des gens qui ont tout compris, parce qu'on ne peut pas juste faire des vêtements et ne pas se soucier des conditions dans lesquelles ils sont faits, avec quels matériaux ils sont faits. Ça me paraissait évident, même si quand ces marques-là ont commencé, c'était tellement, tellement niche, parce que personne ne se posait cette question-là. Aussi parce qu'on était en pleine explosion de la fast fashion, c'était un peu des ovnis. Donc voilà, il y avait cette conscience qui avait toujours été là. Et puis après, je pense que c'est aussi au travers de voyages où je me rappelle être partie au Sri Lanka. Il y a une espèce de grand rocher dans une ville qui s'appelle Sigiriya. Et quand on est en haut du rocher, je me rappelle que j'ai eu l'impression que c'était le début de l'humanité, parce que quand je regardais autour de moi, il y avait que du vert et j'avais jamais vu ça en fait de ma vie. Et je me suis dit, mais en fait, l'humain a tout colonisé partout. Alors bien évidemment qu'il faut qu'on se développe. Maintenant, il y a un moment où, ce qu'on dit souvent, toutes les créatures qui sont sur Terre, elles s'adaptent à leur environnement. La seule créature qui a adapté l'environnement à son être, c'est l'humain. Et je trouve ça dingue. Et après, voilà, d'autres voyages où je me suis rendu compte de la rareté de l'eau. Je me rappelle être allée en Tanzanie et être en Airbnb chez une nana qui nous disait les douches le soir c'est 2 minutes, parce qu'en fait on est hyper rationné. Et en fait tu te rends compte de la préciosité d'éléments qui toi, en tant qu'Européen, en tant que Français, te sont acquis. On a connu, c'était un super voyage, ça fait partie des voyages qui m'ont marqué, parce que voilà, on a connu des coupures de courant, parce que pourtant on n'était pas spécialement dans une petite ville quand on a vécu ça, mais voilà, les infrastructures n'étaient pas là. Et en même temps, je me suis rendu compte que moi, tout ce qui était un acquis pour moi, ça ne l'était pas, et qu'il y avait des terres qui avaient besoin d'être développées et qu'il y avait des terres qui avaient besoin d'être préservées. Et donc voilà, et après, bien évidemment que... Voilà, comme tout un chacun, j'ai été ébranlée par le drame du Rana Plaza. Parce que j'estime que toute vie a une valeur, que tout élément a une valeur, et qu'il y a un moment, c'est tellement égoïste de se dire que moi, pour mon petit confort personnel, j'en ai rien à faire de ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Mmh. C'est un peu facile.
Ouais, je trouve ça beau parce que, comme tu dis, c'est égoïste, en fait, de se soucier de son propre confort. Et pourtant, je pense que c'est malheureusement humain, si je puis dire.
Ah oui, mais c'est sûr.
En fait, je mesure parce que je pense que c'est humain, en tout cas, dans nos sociétés. Je pense que l'altruisme et le collectif l'étaient plus dans des civilisations passées. Et je pense que c'est avant tout ça, l'humain, on est fait pour évoluer et se reproduire. Donc au final, c'est quand même qu'on doit se soucier d'autrui. Mais je pense que nos sociétés nous ont vraiment poussé à être très individualistes et à se soucier de soi. Et je suis personnellement admirative des personnes qui sont engagées pour l'environnement, parce que pour moi, ils font preuve d'un altruisme assez incroyable. C'est pour ça que je trouve ça beau et que j'ai même envie de m'investir, c'est que t'es plus là à te dire « c'est facile de commander mes sous-vêtements sur Internet et de pas regarder la composition, c'est facile d'acheter ce qu'il y a à côté de chez moi et parce que c'est pas cher et parce que voilà, encore une fois, c'est la facilité, mais c'est courageux de regarder quelles ont été les conditions du travailleur, quelles sont les matières, est-ce que je participe à préserver la planète dans laquelle je vis ?» Et j'admire ce courage parce que il est pas évident, en fait. Et je pense qu'il y a toute une génération qui se mobilise pour la planète. Et j'espère que ça va concerner le plus de gens possible, parce qu'en fait, j'ai du mal à évaluer combien de personnes c'est vraiment. Parfois, j'ai l'impression que c'est vraiment toute ma génération. Et parfois, je me rappelle qu'en fait, c'est sûrement une minorité assez aisée, assez éduquée.
Oui, alors je pense qu'il y a
souci de ces questions.
Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et en même temps, effectivement, je pense que ta génération, je suis plus âgée que toi, je pense que vous êtes, enfin c'est ça, c'est ce qu'on appelle les ecological natives. En fait, vous, ces considérations-là, vous les avez toujours eues, les crises climatiques, vous en avez toujours entendu parler. Donc je pense que il y a une conscience qui a toujours été là. Après, bien évidemment que c'est sur des catégories qui sont plus aisées. Maintenant, on peut plus fermer les yeux. Et en même temps, c'est aussi souvent qu'on dit oui, mais c'est en fait c'est un peu des discours de nantis parce que ça demande un certain pouvoir d'achat, etc. C'est aussi parce que on fait pas la réflexion ou l'exercice de se dire ok, comment je peux faire différent. C'est évident que la fast fashion, ça a permis à des tonnes de gens de se vêtir de manière mode là où ça n'était pas possible avant. Mmh. Et il y a eu une forme de démocratisation qui était essentielle. Je me rappelle qu'au début du boom d'H&M, il y avait un truc qui m'avait marqué dans un L où il disait « Les rues de Paris sont plus jolies depuis qu'il y a H&M. » Parce que voilà, parce qu'il y avait plus de petites nanas qui avaient un look. Ce qui est vrai, sauf qu'en fait, il y a eu un espèce de phénomène rebond où la démocratisation a fait qu'au lieu de se dire qu'on y avait tous accès, on y avait tous accès, et puis d'un coup, il y a eu une espèce de boulimie extrême. Sauf qu'aujourd'hui, si tu te dis « je veux avoir un mode un peu plus responsable dans ma consommation de vêtements », alors bien évidemment qu'il y a le discours de « acheter moins, acheter mieux », que je porte entre autres, parce que pour moi, c'est une des options, mais ça n'est pas la seule. Mmh. Parce qu'on ne va pas se mentir, tout le monde ne peut pas s'acheter un vêtement qui coûte 100, 150, 200, 250 euros. Hein. Mmh. C'est clairement pas envisageable pour beaucoup. Maintenant, il y a des systèmes qui se développent aujourd'hui. Il y a la seconde main, et aujourd'hui, en seconde main, on trouve des tonnes de produits. Là, on sent que ça y est, la location, ça commence à s'ouvrir sur notre territoire. C'est par exemple un business qui s'est beaucoup développé en Asie ces derniers temps. Mmh. Il y a des boîtes qui font du leasing. En fait, il y a des options. C'est juste qu'il faut prendre le temps de les étudier. C'est juste que ça demande à pas être trop feignant. Et après, ça, je trouve que c'est un problème de l'humain en général, et parfois, et même moi aussi, ça m'arrive souvent. Parfois, on est un peu feignant parce que on est dans des civilisations de confort.
Ouais.
En fait, tout arrive tout cuit. En fait, on ouvre une fenêtre sur le net et bam, c'est fait en 2 secondes.
Ouais.
Et en même temps, je trouve ça aussi super intéressant, de prendre un peu une casquette de journaliste et d'aller se demander comment les choses sont faites, où est-ce qu'elles sont faites, chercher l'histoire du produit. Enfin voilà, ça, c'est recréer du sens et de la valeur, et c'est essentiel. Et parfois, ça peut être simple. Enfin, et voilà. Et moi, je suis très contente quand je vois des chiffres qui disent que là, à horizon 2025, la fast fashion va plafonner et la seconde main va dépasser les chiffres de la fast fashion. Parce que voilà, on est dans un changement systémique de l'industrie qui est en train de se faire. Je pense que là, on a connu les 20 dernières années qui ont été l'explosion de la fast fashion. Je pense que là, du fait de l'urgence climatique et de l'ouverture d'esprit qui se fait à ces nouveaux business models, là, il y a des changements qui sont en route. Et je pense que... Enfin voilà, de toute façon, on ne reviendra pas en arrière. Et de toute façon, même ces marques-là, elles l'identifient. Tu vois, des gens comme Urban Outfitters qui se mettent à faire de la location, ils se rendent bien compte qu'il y a un moment, leur système, ils ont atteint le plafond de verre et c'est...
C'est pas viable.
Ça va plus être viable très longtemps. Hein. En même temps, bon, je dis ça et j'ai vu encore des chiffres de progression de fast fashion passer dans des journaux pro cette semaine. Mais je pense que du fait de la conscience des plus jeunes générations, d'autres envies de consommer, parce que voilà, aujourd'hui, c'est se dire, oui, avant, je voulais changer de look, ben, j'allais acheter un vêtement qui coûtait rien en fast fashion. Aujourd'hui, ben, peut-être que tu vas ouvrir Vinted ou tu vas aller, dans un vintage shop pour chercher des pièces. Mmh. Et c'est une autre façon de changer ton look.
Ouais, exactement.
C'est pas forcément acheter et jeter. C'est juste, après, toi, tu vas peut-être revendre. Voilà, ça permet d'allonger la durée de vie du produit, qui est une des questions clés dans le marché aujourd'hui.
Ouais.
Donc voilà, des options, il y en a plein. Les marques doivent aussi revoir, tous les scandales qu'on a pu voir sur les stocks des marques qui étaient brûlées. Alors certes, en France, ça, bientôt, on n'aura plus le choix que de... pas le faire, les marques ne pourront plus le faire. Mais voilà, c'est se dire, aujourd'hui, il y a plein de nouveaux logiciels pour prévoir au mieux ces quantités quand on fait des développements de collections. C'est aussi travailler davantage sur de la précommande. Enfin, il y a plein d'options. Et moi, c'est ce qui m'enthousiasme aujourd'hui, c'est que je suis en train de voir une industrie qui est en train de changer de visage.
Ouais, c'est vrai. Ou en tout cas, c'est ce qu'on met en avant et tant mieux. Enfin... pareil, du coup, j'ai l'impression que c'est peut-être un microcosme, mais j'entends vraiment plus parler de marques qui proposent des nouvelles matières, des produits plus durables, qui se soucient plus de l'environnement que de leur profit. Et je trouve ça hyper rafraîchissant et j'espère, comme tu dis, que c'est là pour durer. Comment, du coup, est-ce que tu t'es... j'imagine que de par ton métier, dans tous les cas, tu t'es documenté. Est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé juste à mieux comprendre, en fait, ce qu'était aujourd'hui la situation de la planète ? Parce que je pense que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices sont à la recherche de ces ressources. On parlait du podcast Présage, qui, je pense, est un bon moyen de se renseigner. Est-ce que tu as aussi, je sais pas, des livres, des documentaires, ou même, je sais pas, des vidéos qui t'ont aidé à un peu te documenter et t'éduquer là-dessus ?
Bah, je pense que moi, la première grosse claque, ça a été Une vérité qui dérange d'Al Gore, le premier, c'était il y a plus de 10 ans. The True Cost, comme beaucoup de gens, ça a été... C'est justement ce qui a fait, parce que bien évidemment qu'il y a une conscience, mais quand tu vois ces images-là, je pense que ça marque beaucoup et ça incite à s'engager. Et après, ça a été, en fait, dès que j'entendais un nom, c'est la curiosité. Malheureusement, j'ai pas d'outils clés. Dès que j'entendais quelqu'un qui me paraissait intéressant sur le sujet, j'allais fouiller sur le net. Je me renseignais un maximum, assister à des conférences, beaucoup. En fait, c'est sûr que oui, ça demande de la curiosité, mouvements ou des gens qui sont porteurs, bien évidemment, comme Cyril Dion, sont des très beaux modèles. Donc voilà, en fait, je pense que c'est ça, c'est être curieux. Et ma question, c'était pas me dire que uniquement qu'est-ce qui se passe dans l'univers de la mode, c'était aussi comprendre comment on approche les questions d'écologie, comment on approche les questions sociales dans d'autres univers que le mien. Et c'est ça qui aide beaucoup et qui permet de comprendre aussi certaines choses. Je me rappelle avoir assisté à une conférence où il y a eu quelque chose qui a été un vrai déclic, où je pense qu'aujourd'hui, et ça va recouper avec ce qu'on s'est dit avant, il y a une prise de conscience et une mise en action des problématiques sur l'écologie, parce qu'on est passé à un moment ce que le conférencier appelait l'égologie. En fait, c'est vrai que quand les drames se passent très loin de chez toi, quelque part, c'est pas sous ton nez, tu t'en soucies pas. Quand les catastrophes climatiques, tu commences à les ressentir au quotidien, quand tu commences à entendre parler de perturbateurs endocriniens sur des traitements, sur des tissus, que les microplastiques, on les ingère au quotidien, etc., il y a un moment où quand tu sens que toi, potentiellement, ça peut te toucher, d'un coup, ça fait que... t'es beaucoup plus éveillé à tout ce qui se passe partout. Et donc, peut-être que... Oui, c'est ça. Enfin, je ne veux pas dire que j'ai toujours une conscience parfaite et que j'ai été la parfaite consommatrice, etc. Non. Je ne le suis toujours pas autant que je le souhaiterais. Maintenant, oui, peut-être qu'il y a eu des moments où je me suis rendu compte parce que, voilà, ce que j'évoquais par des voyages, je me suis rendu compte à un moment où j'ai vu la raréfaction de certains éléments. Je me suis dit, mais ça pourrait me toucher. Et à partir du moment où ça me touche, je me rends compte que, en fait, bah, ça n'est pas juste mon petit problème à moi, c'est un problème qui est global et qui a un moment où, pour que ça ait un poids, il faut qu'on agisse tous ensemble. Il y a un éditorialiste, je crois que c'est au New York Times, qui avait écrit un article qui était super intéressant, où en fait, il dit qu'à partir du moment où 10% des pionniers dans un secteur s'engagent dans un nouveau mode de consommation, après on arrive à une bascule qui fait qu'on va arriver à une nouvelle norme de société et que là on va vraiment avoir une accélération du changement parce qu'on est plus sur des, voilà, sur des actes isolés, mais sur une vraie dynamique d'ensemble.
Ouais.
Et c'est là où c'est clé.
Ouais.
Et à la fois c'est en même temps prêcher et agir, mais beaucoup beaucoup agir parce que enfin voilà, je suis ravie aujourd'hui d'en parler avec toi, mais ce qui est vraiment clé, c'est d'agir parce que, enfin voilà, moi je suis contente qu'on ait signé le Fashion Pact au niveau de la France avec des acteurs internationaux, etc. Maintenant, voilà, pour avoir lu le document, c'est 9 pages qui énoncent des grands principes à horizon 2030 pour que l'industrie ait mis en action beaucoup de principes pour que on amoindrisse la catastrophe qu'on est en train de vivre. Maintenant, il faut au-delà de l'horizon 2030, là, il faut un programme d'action très concret. Et pour demain, là, on n'a plus le choix que d'agir et d'agir maintenant.
Ouais,
alors, peut-être que c'est une question de... Peut-être que c'est un microcosme et que c'est des élites. Mais en même temps, moi, pour avoir des amis qui ne gravitent pas du tout, mais du tout, dans mon univers, la prise de conscience, elle est partout et les modes de consommation, ils changent à tous les niveaux.
Ouais, je pense que les politiques ont très peur du concret. Parce qu'ils savent que s'ils posent des objectifs concrets avec une date limite, il y aura des personnes derrière pour dire « vous n'avez pas fait ça ». Donc c'est les spécialistes pour être dans le flou et dans l'horizon.
Tout à fait.
Et c'est malheureux, mais comme tu dis, j'espère qu'ils vont agir tout de même. Et je pense qu'on est dans une société où on peut plus attendre de changements dans tous les cas de la société civile que de la part des politiques. Et c'est pas plus mal, parce qu'au moins, on a réalisé qu'on pouvait agir à notre échelle. Et du coup, moi, j'aimerais quand même profiter du fait que tu sois là et que tu sois quand même assez experte sur ces questions, notamment de par là ce que tu fais à Première Vision sur la question des matières, parce que, comme tu dis, il faut agir, mais pour agir, il faut savoir. Et le savoir n'est pas forcément à la portée de tous et toutes comme on l'aimerait. Moi, la première, et j'aimerais bien du coup que tu nous dises, tu vois, sur les matières qu'on utilise aujourd'hui de manière assez traditionnelle dans la mode, ou en tout cas ce qu'on pensait pas forcément nocif. Enfin, tu vois, moi, je sais que le coton, j'ai toujours été rassurée par le coton, en mode c'est doux, c'est... Enfin voilà, et je tombe des nues quand en fait on dit que je crois que ça met 1000 ans à se dégrader. Enfin voilà, est-ce que tu peux me parler un peu comme ça des matières les plus fréquentes? Mais moi je les connais pas toutes, mais je pense au coton, au polyester, et peut-être à l'élastane, tu vois. Après, si toi aussi tu en connais forcément plus que moi, dont tu veux nous parler, parce que je pense que ça peut être un réflexe que toutes les personnes qui nous écoutent peuvent mettre en place. Faut juste regarder une étiquette et voir la composition, quoi.
Bien sûr. Alors déjà, une super ressource dans les bons médias à suivre, il y a The Good Goods en ligne qui fait un très beau travail sur l'éco-responsabilité, qui régulièrement fait des petites fiches sur les matières qui sont, je trouve, très accessibles pour le grand public et donc qui sont très bien. Donc n'hésitez pas à aller creuser ce média qui est très intéressant. Ensuite, alors oui, c'est vrai qu'on a tout le temps cette idée, et les marques le communiquent encore beaucoup aujourd'hui, de les matières naturelles. Alors pour certaines, oui, elles sont super, le lin, le chanvre notamment, parce qu'on a besoin de très peu d'apport d'eau. On est sur des fibres très intéressantes en termes d'écologie. Après, elles ont la contrainte qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut à date avec du lin et du chanvre. Le chanvre, ça reste quand même assez sec, donc il faut le mélanger avec d'autres fibres pour que ça soit plus doux. Mais oui, l'erreur la plus communément faite, c'est que le coton n'est pas le matériau idéal du tout. Le problème du coton, c'est déjà une consommation d'eau qui est énormissime et une consommation de pesticides qui est de l'ordre de 20% des pesticides qui sont utilisés au monde. Donc, il y a déjà une première alternative qui est bien évidemment intéressante, qui est le coton bio. Parce qu'en fait, quand on va être sur du coton bio, déjà, on est sur un principe de rotation des cultures. Donc, on va moins épuiser les sols. Bien évidemment, on n'utilise pas de pesticides vu qu'on est sur une agriculture biologique. Et c'est aussi que vu que les sols sont moins épuisés, toute l'eau que le coton bio va recevoir est beaucoup plus vite assimilée. Donc, on est sur une utilisation d'eau qui est bien moindre. Après, oui, le polyester, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe écologique. Ben, c'est déjà, en fait, le polyester, c'est du pétrole à la base. C'est une fibre qu'on obtient comme ça. Mmh. Ben, l'industrie la plus polluante au monde, c'est la pétrochimie. Donc, ça veut dire que la mode nourrit l'industrie la plus polluante au monde. Donc, bon, on aimerait assez bien s'en passer. Et le problème avec le polyester et avec tous les matériaux synthétiques, comme le polyamide, qui est un matériau qu'on utilise beaucoup pour la lingerie ou pour les vêtements de sport, c'est que quand on les lave, ça va générer des microparticules. Et puis, ces microparticules, elles vont être avalées potentiellement par les poissons. Et puis un jour, tu vas manger du poisson. Et puis donc un jour, tu vas manger, quelque part, c'est parfois des raccourcis que je fais pour expliquer à mes amis. Ben, en fait, un jour, tu vas manger un bout de ton vêtement. Mmh. Et voilà, donc c'est ça dont il faut avoir conscience. Donc voilà, on travaille aujourd'hui sur des nouvelles matières. On développe aujourd'hui des nouveaux synthétiques qui sont à base de ressources renouvelables. Mmh. On arrive à obtenir, par exemple, des polyamides avec du ricin, qui est une plante qui pousse assez spontanément, qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau, donc qui est une ressource très intéressante. Et puis, on développe aussi beaucoup ce qui est une grosse partie des recherches et qui commence vraiment à sortir sur le marché aujourd'hui, ce qu'on appelle des biofibres, en fait, des matériaux qu'on travaille sur un principe d'économie circulaire. En fait, on va travailler en collaboration avec une autre industrie, c'est-à-dire par exemple, avec l'industrie agroalimentaire, et on va récolter des feuilles d'ananas, de l'écorce de bananier, des résidus de lin ou de chanvre pour faire des huiles, pour après obtenir des nouveaux matériaux. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que les déchets d'une industrie, les déchets de l'industrie agroalimentaire, parce que quand on utilise la feuille d'ananas, c'est la feuille sur laquelle l'ananas pousse. Voilà, on récupère les matériaux les déchets d'une industrie qui vont devenir la matière première d'une autre industrie. Et donc, on est sur un principe de circularité. Et donc, on ne va pas créer une nouvelle ressource. On ne va pas faire, par exemple, pousser du coton. On ne va pas aller extraire du pétrole pour obtenir une fibre. Ce qui est très intéressant, c'est que voilà, quelque part, rien ne se perd et tout se transforme. Ouais. Et on est sur des boucles circulaires et on est sur des approches beaucoup plus intéressantes.
Ok. Et j'y pense, là, la dentelle, parce que pareil, c'est une matière qu'on imagine un peu noble. Quel est l'impact vraiment de la dentelle sur la planète ?
Bah c'est très très fréquemment du polyamide. Donc on est sur des synthétiques, donc okay. Voilà, on est sur les
méfaits,
sur les problèmes de la pétrochimie. Après, ouais. Aujourd'hui, on sait faire du polyamide recyclé, ce qui est déjà une avancée.
Ouais. Mais le mieux reste des matières, comme tu dis, à base de...
Enfin, oui, tout ce qu'on appelle techniquement les biopolymères.
Ouais.
Mais oui, en fait, je pense que c'est essentiel pour les consommateurs de poser des questions et c'est aussi, bien évidemment, essentiel pour les marques d'expliquer les choses.
Ouais.
Nous, on le voit beaucoup aujourd'hui, mais même les designers, avant, choisissaient sur un aspect, sur un look, ce qui est toujours le cas, et de toute façon, ça le sera toujours. C'est aussi que c'est... Cette mode éco-responsable, aujourd'hui, elle marche mieux parce qu'il y a des propositions plus modes.
Ouais.
Parce qu'à un moment, ça reste un achat coup de cœur.
Mmh.
Mais aussi, les designers se posent des questions sur « Ok, comment c'est fait ?»
Ouais.
Et on voit que c'est une nouvelle approche de consommation au niveau du créateur, puis après au niveau du consommateur.
Et tu vois, j'ai l'impression qu'on en revient à notre histoire d'équilibre, où c'était pas sain de se reposer que sur l'aspect fini, et qu'on fait entrer d'autres réalités qui sont essentielles, qui est celle de la matière, de l'impact que ça peut avoir, et je crois que ça va être un peu le titre de l'épisode sur l'équilibre.
Ouais.
Du coup, je vais te poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ?
Alors, en tout cas, pour moi, prendre le pouvoir de ma vie, ça a été me dire que je peux pas tout contrôler, mais qu'en fait, je fais toujours au mieux avec les cartes que j'ai à un moment donné. Je pense que parfois, aussi parce que j'évolue dans des sphères qui sont très perfectionnistes, moi j'ai un côté à toujours me dire « Ok, je fais un rétro-planning, j'organise tout, etc. » J'essaye de tout sécuriser. Et puis en fait, parfois la vie, alors plus dans ma sphère perso, m'a montré « Non, en fait, tu peux pas... » Tu peux pas tout cadrer comme t'espères. Mmh. Et en fait, je pense que du jour où, il y a quelques années, j'ai réalisé ça, cette espèce de truc de « that's life ». Ok, parfois, ça va pas aller comme tu le veux, mais en même temps, ton équilibre, tu vas le retrouver. Ok, là, aujourd'hui, c'est quoi tes cartes ? Comment je retrouve le confort dans l'inconfort d'une situation ? Et en fait, c'est ça qui me donne le pouvoir de me dire « Ok, en fait, il n'y a jamais de fatalité. C'est juste qu'il y a des moments qui sont plus évidents que d'autres. C'est juste, voilà, arriver à trouver l'équilibre sur le fil et me dire qu'il y aura, en fait, il n'y aura jamais un moment où tout ira bien, où tout sera tracé, où je ferai le taf parfait, où j'aurai la vie parfaite. Ça sera toujours... En fait, je serai toujours sur un fil. Et je crois qu'à partir du moment où je me suis dit « En fait... J'ai le pouvoir quand je suis une funambule et que j'ai pas de problème avec ça. Et que je me dis, ok, je sais que je peux composer avec le bon et avec le mauvais.
Trop cool. Ah, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et je pense que c'est vrai que c'est le plus difficile. Savoir accepter que ça se passe pas toujours comme
c'est
on
ça.
Veut et pas se laisser abattre pour autant, quoi.
Ouais.
Trop cool. Ben, merci beaucoup, Marina, d'être venue sur
Power.
Ça m'a fait trop plaisir. Si des personnes veulent en savoir plus sur toi ou sur ce que tu fais, où est-ce qu'on les redirige ?
Alors, pour en savoir plus sur les matériaux, ben chez Première Vision. Et puis sinon, moi, je serais ravie d'ouvrir des discussions avec vous sur mon LinkedIn.
Ok. Voilà. Donc, je mettrai ça dans les notes du podcast si jamais vous voulez la retrouver. Merci, Marina.
Merci.
À très vite. Bravo, vous êtes arrivé jusqu'au bout de cet épisode d'InPower. Ça me fait vraiment plaisir et c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en story ou en post sur Instagram en nous taguant @inpowerpodcast et @mybetterself pour que je puisse échanger avec vous. Vous pouvez aussi vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Ça vous permettra de recevoir gratuitement les prochains épisodes sur l'application et conseiller également le podcast à des proches qui pourraient en bénéficier. Je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.